cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 1er février l'an 2000 à Saint-Gérard.
Je recommence tout de suite à faire des cours. J'espère pouvoir le faire. Alors si ça va moins bien, j'arrêterai. Puisque pendant un mois, je n'en ai pas fait. Alors, il faut remettre la machine en route. Alors, vous savez, et remettre la machine en route, c'est même quand il y a des habitus, il y a des freins cachés. Et il faut les enlever petit à petit. Alors, d'avance, je m'excuse pour... Je ne peux pas donner le cours tout à fait comme avant. Forcément, on est enrayé. La mémoire disparaît. C'est très curieux. On voit comme il est vrai ce que dit saint Thomas, que tout ce qui implique le corps est lié, très lié, sauf ce qui est séparé et qui n'est pas lié au corps. Alors, lui reste indépendant. Il a l'habitus de philosophie, de métaphysique, et libre par rapport au corps. C'est vraiment le nous séparer. Mais il faut parler. Alors, la parole est liée au corps. C'est sûr. C'est là qu'on voit très bien que c'est pas notre parole qui pense, c'est notre pensée qui agit sur notre parole et qui agit sur notre parole ou en l'activant ou en la freinant. D'habitude, quand on est bien portant, elle active. Ben, c'est connu qu'on se réveille en parlant. Et c'est plus difficile de se réveiller en écoutant. Tandis que c'est plus facile de se réveiller en parlant. Tandis que ici, c'est l'inverse. On peut très bien continuer de penser et ne pas pouvoir exprimer exactement ce qu'on voudrait communiquer. Il y a un phénomène particulier sur lequel on doit réfléchir, parce que soi-même on ne peut pas arrêter la machine et vouloir l'arrêter, mais quand ça vous arrive, on est obligé d'y réfléchir. Ça aide du reste à voir ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire, et qu'on doit tout simplement accepter le réalisme du corps. C'est peut-être cela qui est le plus impressionnant dans la médecine chinoise, le réalisme du corps. La médecine occidentale, surtout la médecine américaine, est dominante. On sourit quand on dit la médecine chinoise. Parce que le contrôle est beaucoup plus difficile. On a affaire à des hommes, et à des hommes moins bons et des hommes parfaits. On ne juge plus objectivement ce que la science peut juger. On est beaucoup plus remis à un jugement de sagesse. Au fond, je crois que la médecine chinoise est une exigence de sagesse. La médecine occidentale est une exigence de science. Et le point de vue de la science et de la sagesse sont extrêmement visibles, de façon très étonnante et très belle. Ça ne veut pas dire que la médecine occidentale ne peut pas être sagesse. Hein. Elle est sagesse, mais très rarement sagesse. On se confie plus à la science qu'à la sagesse. Et ça contamine tout. C'est très curieux. À ce point de vue-là, c'est très intéressant. Parce que c'est toujours les rapports de la science et de la sagesse. Et je crois que nous devons y réfléchir beaucoup, à ces rapports de la sagesse et de la science. Nous étions restés avant Noël, c'est vieux, pour des novices, et plus d'un mois, un mois et demi, sur la substance. Je ne refais pas l'induction de la substance, je dis seulement la première question métaphysique, qu'est-ce que c'est que ce qui est en tant qu'être ? La seule chose métaphysique que j'ai pu faire pendant ces quelques jours, ce mois, j'essayais, il y a 15 jours, de lire un article qu'un professeur de Nancy, professeur agrégé de philosophie de Nancy, que je ne connais pas, mais qui connaît très bien cet homme-là. Alors, c'est un article... Ça vous intéresserait sur le jugement d'existence. Que sévit le jugement d'existence. Alors, très gentiment, il me l'a envoyé. En me disant, lisez-le, dites-moi ce que vous pensez. Une critique très sévère de Gilson, très sévère, qui est juste. C'est la seule chose que j'ai pu lire. J'ai commencé il y a 15 jours. Je vais refermer assez rapidement. Parce que c'était trop fatigant pour les pauvres ménages. Puis j'ai repris il y a 8 jours. Et ça, la colombe a pu sortir de l'arche. Et j'ai pu lire cet article de 20 pages sur le jugement d'existence. C'est intéressant de voir un professeur agrégé de philosophie de Nancy qui s'intéresse au jugement d'existence. Et qui lui aussi attaque Gilson parce que Gilson n'a pas compris. Il est moins sévère pour Maritain, quoique il parle aussi de l'intuition de Maritain. Et il essaie de reprendre ce que dit Aristote, ce que dit Thomas d'Aquin. Et il montre que si on suit Gilson, tout saint Thomas dégringole, tout Aristote dégringole. Et c'est le primat de la logique. Alors, je pensais à vous en lisant ça, parce que je ne vous conseille pas de le lire tout de suite parce que c'est assez compliqué. C'est pas très, très limpide. C'est très, très. Une critique qui demande d'être scientifique et qui l'est du reste, sous ce point de vue-là, mais qui est très logique en même temps. Alors, c'est intéressant, mais ça n'apprend pas grand-chose sur le jugement même d'existence. L'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être en tant qu'être ? Pour se poser cette question, il faut d'abord connaître ce qu'est l'être, d'une façon vague, commune, à peu près. Dans tout jugement que nous portons, où il y a toujours le verbe être, ceci est. Pierre est intelligent. Il y a toujours un verbe. Et le premier verbe, c'est le verbe être. C'est quand même curieux que être se dit dans un jugement. C'est un langage, hein. C'est le langage. Et tout est là-dessus. Le verbe être. Alors, ceci est. Pierre est intelligent. Pierre est un homme. Nous avions vu, en se posant la question, qu'est-ce que c'est que l'être en tant qu'être, que c'est une recherche du premier selon la détermination, selon la cause formelle, pas selon la finalité, selon la cause formelle. Qu'est-ce que c'est que le premier dans l'être, pris en lui-même, selon la détermination. Ça, c'est l'interrogation. Et l'interrogation est l'âme d'une induction. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'être ? Nous étions arrivés à la distinction classique, le sujet et le point de vue, substance première, Pierre, puis substance seconde, homme. Pierre est une substance, homme est une substance. Tous les deux sont premiers dans deux perspectives différentes. Une perspective concrète, Pierre, sujet, substance première. Le second est premier selon la détermination formelle, de la cause formelle, homme. Il n'y a rien de plus déterminé que homme. Animal aussi. Puis vous pouvez préciser telle espèce. Mais comme ils sont deux étant premiers, il y a nécessairement un premier des deux. Quel est ce premier des deux qui permet de dire que Pierre est substance ? Et de dire que homme est substance. Substance première, substance seconde. J'interroge, qu'est-ce qui est premier au point de vue de l'être en Pierre ? Qu'est-ce que premier au point de vue de l'être dans homme ? Alors, en interrogeant, et il faut toujours interroger pour l'induction, si on n'interroge pas, on n'avance pas. Et si on n'avance pas, on recule. Forcément. On se dit que ça ne sert à rien. Ben, acceptons tout simplement que Pierre et homme, et puis tout. Vous voyez, au point de vue logique, vous en restez là. Pas besoin d'aller plus loin. Pierre est sujet. Vous pouvez dire Pierre est grand, Pierre est petit, Pierre est intelligent, Pierre n'est pas intelligent, Pierre est bon, Pierre est ainsi de suite. Tout. Le sujet reçoit tout. Pierre reçoit tout. Et quand vous dites homme, c'est la détermination substantielle. Vous ne pouvez rien dire plus. Au point de vue logique, distinction du sujet et du verbe, c'est parfait. Ceci est. Et ce n'est pas le même que ceci. Le verbe touche l'être, touche le verbe dans le jugement. Mais si je regarde au plan métaphysique, et la métaphysique fondent la logique, je veux et je dois aller plus loin. Qu'est-ce qu'il y a de premier? Quel est le premier de pierre et d'homme? Ce par quoi pierre est premier, ce par quoi homme est premier, ce par quoi, c'est le principe. Oui, c'est une façon de me conduire à la substance. Et là, je précise qu'au-delà du sujet et au-delà de l'attribut, il y a la substance, il y a le principe substance, ce qui est premier selon la détermination dans l'ordre de l'être. Une fois que j'ai saisi la substance au point de vue de l'être comme un principe propre, c'est un principe propre. C'est le premier principe propre de l'être, la substance. Je ne me pose pas la question savoir qui a une substance. Est-ce que le crapaud a une substance? La substance du crapaud. Je pose la question simplement par rapport à Pierre. Pierre est un homme. Pierre est quelqu'un de substantiel. Quelle est la qualité propre de ce principe? C'est normal que je me pose la question. La qualité propre de la substance, du point de vue de l'être, c'est l'autonomie. Parce que l'être est premièrement substance, je montre l'autonomie dans l'être. La substance possède en elle-même une autonomie au niveau de l'être. On dira facilement au niveau ontologique, j'aime mieux dire au niveau de l'être. C'est plus précis. Une autonomie, c'est-à-dire qu'elle ne dépend de rien d'autre. C'est vrai, elle ne dépend proprement de rien d'autre. Il y a en nous, il y a une autonomie radicale de l'être, qui est la substance. Toutes les autres déterminations qui sont secondaires sont relatives. Être intelligent, c'est important, mais c'est second. T'es jamais premier. On existe avant que d'être intelligent. Il y a des gens qui continuent d'exister en perdant leur intelligence. La perte de son intelligence, la perte de sa volonté, la perte de son autonomie. Est-ce qu'on peut perdre son autonomie dans l'ordre de l'être? Celui qui meurt, ça c'est le gros problème de la mort. Je vois que, sauf la substance qui est première, ne dépend de rien. Et je dois d'abord l'affirmer. J'affirmerai ensuite, quand j'aurai découvert l'existence de Dieu, que la substance peut être créée tout en gardant son autonomie. La substance de mon âme est créée, philosophiquement je peux l'affirmer, et cependant mon âme est encore une substance, elle a encore son autonomie. Et c'est important de saisir cela, de comprendre que la substance est ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, et donc le caractère propre des substances implique l'autonomie. C'est ce que nous affirmons en disant que la substance subsiste. Vous voyez, quand vous dites la substance subsiste, qu'elle est capable de recevoir des déterminations, Pierre est capable de recevoir des déterminations. Je dis Pierre est un homme, Pierre a telle dimension, Pierre est intelligent. Pierre subsiste dans son autonomie, dans sa substance, et reçoit toutes ses déterminations. Il est capable de les assumer, de les prendre dans l'unité. Donc, subsister veut dire être premier dans l'ordre de l'être. Et être capable d'être indépendamment des autres. La substance subsiste. Vous voyez, c'est important de souligner ça tout de suite. Dès que je saisis la substance comme principe propre de l'être, selon la détermination, selon la cause formelle, je précise tout de suite qu'elle subsiste. Je ne dis pas qu'elle peut subsister, je dis qu'elle subsiste. Elle a en elle-même la capacité de subsister. Elle a en elle-même la capacité d'être première et de rayonner dans son caractère de première, son rayonnement sur toutes les autres déterminations. Le principe rayonne sur tout ce qui n'est pas principe. Et ce rayonnement s'exprime par ce fait que la substance subsiste. Donc, elle est autonome et elle subsiste dans l'ordre de l'être. C'est le caractère propre de la substance. Je peux aller peut-être un peu plus loin en me demandant où est-ce que je peux avoir vraiment contact avec la substance, saisir la substance. Est-ce que je suis condamné de connaître la substance uniquement comme un principe que j'infère ? C'est très bien la connaissance par inférence, et j'ai toujours une connaissance un peu lointaine. Vous ne touchez pas la substance quand vous touchez la substance comme principe propre de ce qui est en tant qu'il est. Et c'est ça les difficultés. Si je touchais la substance, si je l'atteignais directement, si je pouvais avoir expérience de la substance, je serais libre d'induction. Je peux me poser la question, où vais-je trouver des substances ? Si j'étudie le crapaud, et que je me demande si le crapaud est une substance ou pas de substance, quelle est la substance crapaud ? Si vous voyez chercher ça, je vous dirais cherchez bien, je peux revenir dans 10 ans, je ne l'aurai pas trouvé. Le crapaud a une nature. Ah ! Je vois tout de suite la distinction entre nature et substance. Nature, principe propre de ce qui devient. C'est le principe propre du devenir. Tandis que la substance, principe propre de l'être. Toute la distinction qu'il y a entre être et devenir, vous la retrouvez dans substance et nature. C'est curieux, ça. Alors, le devenir, ben oui, vous avez l'expérience constante du devenir. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Vous l'expérimentez tout le temps, ça. Et quand vous commencez à dire « hier, c'était aujourd'hui », vous faites une grosse confusion. Parce que vous commencez à croire que le devenir, c'est l'être. Non, une distinction. Y a-t-il une sagesse pour le devenir ? Non. Je peux remonter indéfiniment. Il n'y a pas de sagesse. Alors, je me pose la question. L'homme a-t-il une substance ? Quelle est sa substance ? Son âme. Vous voyez, c'est plus concret. Mon âme et ma substance. Je ne dis pas l'âme et substance. Mon âme et ma substance. Ma substance. C'est le propre de l'homme d'être à la fois une nature et une substance. Il est les deux. Et ça explique beaucoup de confusion, ça. Confusion entre la nature et la substance. Mon âme est principe de mon devenir. Il est principe de mon être. Mon âme est principe de mon être. Et mon âme est principe de mon devenir. Sous deux aspects différents. Et les principes du devenir en tant qu'elle détermine le corps. Les principes d'être en tant qu'elle est source d'être pour moi. Source de mon indépendance. Alors, c'est intéressant pour moi, pour nous de voir que la substance qui nous donne une autonomie dans l'ordre de l'être, je ne dépends pas de mes parents. Si mon âme venait de mes parents, très différent. Oui. C'est pour ça que dans tout matérialisme, dans toute théorie matérielle, la dépendance de l'homme à l'égard de ses parents est une dépendance dans l'ordre du devenir, de la croissance. Si vous êtes devenu un petit bonhomme, c'est grâce à votre mère. C'est évident. Depuis la conception jusqu'à la naissance. Là, c'est le devenir. Et votre mère est cause du devenir, la maternité est cause du devenir. Et en même temps, elle touche l'être par le devenir. Par le devenir, elle touche l'être. Mais pas directement. Je n'ai pas directement connaissance de mon âme. Et par le devenir, j'ai connaissance de mon âme. Par l'amour, par la connaissance, toute espèce de connaissance, il y a l'âme. Par le toucher, l'âme. Par les sens externes, l'âme. Mais pas directement. Ah, vous voyez, cette chose curieuse. Et comme il est utile alors, de bien distinguer la substance de la nature. De bien voir que la métaphysique va être la source pour saisir l'être comme autre chose que le devenir. La confusion et l'erreur la plus fondamentale, c'est la confusion entre le devenir et l'être. De ne pas distinguer le conditionnement de ce qui détermine. De ne pas distinguer le pos, le comment, du qui est-il. Et c'est la substance. Vous connaissez quand même un tout petit peu ce qu'est la nature humaine, la nature du crapaud. Vous dites l'être à l'homme, à la nature humaine. C'est par la nature que je connais la substance. C'est par le devenir que je connais l'être. Mais l'être, si c'est par la nature que je connais l'être, l'être me donne une intelligibilité qui, elle, n'est pas dépendante du devenir. Elle est. Elle peut rester dépendante du venir. Alors, dans ce cas-là, elle n'a pas d'autonomie. C'est très très important pour la liberté, ça. C'est très très. Tant que vous ne touchez pas l'être, vous ne savez pas ce que c'est que la liberté. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'autonomie dans l'ordre de l'être. Donc, voyez comment la connaissance de la substance va pouvoir s'enrichir par l'induction que vous faites de l'âme. Si vous comprenez, du moins, si vous saisissez ce qu'est votre âme, vous pouvez comprendre quelle est source de votre être et donc quelle est substance. Aristote a saisi ça, et beaucoup de modernes ne le saisissent pas. Ils sont dans la confusion. Et au fond, c'est l'erreur fondamentale de Gilson de ne pas avoir distingué avec suffisamment de netteté le devenir et l'être. Une fois que j'ai compris que la substance, source de ce qui est, selon la détermination, je peux me poser la question, quelle sera, en quelque sorte, les premiers effets de cette source. Que c'est la substance qui est principe propre de ce qui est en tant qu'il est, je peux me poser la question, et ça m'aide à comprendre ce que c'est que la substance, de regarder quel est l'effet propre de la substance. Et c'est ce que nous allons voir progressivement. Première chose à voir, c'est que la substance est source de la substance sujet. Voyez, dans l'idéologie de ce qui apparaît, la phénoménologie, la substance apparaît comme sujet. C'est intéressant de voir ça. De voir que dans la phénoménologie, ceux qui vont le plus loin définissent la personne, la substance, comme le sujet. Et vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose de juste et quelque chose d'intéressant. Le premier effet de la substance, c'est de permettre à la substance d'assumer la cause matérielle et avec la cause matérielle d'être sujet. Et en restant cause du sujet. Parce que si vous confondez le sujet et la substance, vous voyez tout de suite le matérialisme. Puisque vous faites de la matière ce qu'il y a de fondamental. Je crois que le premier sujet de la substance, le premier effet de la substance, c'est d'être sujet. Substance, sujet. Pierre est une réalité substantielle. Sa substance est présente en Pierre. Et Pierre est sujet de toutes les qualités possibles et de tous les défauts possibles. En tant que sujet, vous êtes capable d'être un saint. Comme sujet, hein. C'est-à-dire comme un novice, est capable de ça. Me permet de dire que tous les novices qui me sont confiés sont tous des substances dans l'ordre de l'être. S'il a un regard métaphysique sur vous. Donc, un sujet capable d'être saint. Un sujet capable d'être contemplatif. D'atteindre Dieu et de le contempler. Un sujet capable de réaliser telle ou telle chose dans l'ordre de l'agir, du faire. Un sujet. L'être humain, le point de vue de la substance, est source par la matière. D'être sujet. Et je le constate, ça. La phénoménologie atteint la substance par le sujet. Ah, ça m'intéresse, surtout aujourd'hui. Et je vois tout de suite les erreurs de la phénoménologie qui considère que la substance, c'est le sujet. Que la personne, c'est le sujet des sujets. Le second effet, non plus avec la cause matérielle, mais par elle-même, d'être pleinement elle-même, c'est d'être substance seconde. C'est le va-et-vient. Substance première, substance seconde me conduisent à la substance. Une fois que j'ai saisi la substance comme principe propre de ce qui est, je reviens en arrière, non plus pour chercher le sujet, mais pour montrer comment ce sujet est source, comment ce principe est source. Source de la substance sujet, source de la substance seconde. Pierre est un homme. Sa substance lui permet d'être telle nature, telle espèce. Et j'identifie l'espèce et le principe. Quelle erreur d'identifier le le principe et son effet propre. Je crois que c'est l'erreur propre à Platon. Vous voyez, Marx et Platon ont quelque chose de commun. C'est très curieux. C'est que le principe s'identifie avec son effet. Je ne distingue plus le principe comme principe, je l'identifie avec son sujet. Un sujet qui provient de la matière, un sujet qui est immanent. Un effet qui est immanent, pardon. Il y a l'effet extrinsèque par la matière. Il y a l'effet intime par l'immanence. L'immanence de la substance, c'est l'essence. C'est la nature. C'est ce qui est de telle détermination. Et je vois là tout de suite que la saisie de la substance comme principe propre de ce qui est en tant qu'il est, me délivre de ces deux grandes erreurs, le matérialisme et l'idéologie de la forme. Mettre la forme au-dessus de tout. Et mettre la forme comme ce qui est principe. Donc, et nous avons ces deux philosophies qui sont présentes dans l'histoire de la philosophie, dans la philosophie européenne, dans la philosophie des États-Unis. Nous avons ces deux erreurs en grand. Identification de la substance avec le sujet, identification de la substance avec la forme. L'idéologie matérialiste de gauche, l'idéologie avec la forme, c'est l'idéologie de droite. Hegelianisme de gauche, hegelianisme de droite. Oui, c'est extrêmement intéressant de voir comment la saisie de la substance me permet de comprendre ces deux philosophies qui apparaissent comme diamétralement opposées, qui en réalité ne sont pas du tout diamétralement opposées, puisque il y a des deux côtés une erreur analogue. Confondre le principe avec son effet, avec un effet extrinsèque faisant appel à la cause matérielle qui est toujours autre que l'être. L'idéologie formelle faisant appel à la forme qui est immanente, qui est à l'intérieur même de ce principe, qui est le point de vue de la forme. Alors, nous comprenons que la saisie de la substance comme principe propre de ce qui est capitale aujourd'hui. Puisque par là, vous dépassez la phénoménologie matérialiste, le marxisme, vous dépassez la phénoménologie idéaliste du platonisme. Toutes les deux sont mises dans la même, dans l'erreur analogue, confusion du principe de la source et de son effet propre. Je crois que c'est très important pour nous de saisir ça, parce que ça nous permet de mieux comprendre l'erreur fondamentale, substantielle, donc fondamentale, de la phénoménologie marxiste et de la phénoménologie formelle. Gog et Magog. J'ai dit ça, entre guillemets. Ce sont deux philosophies qui nous saisissent. Aujourd'hui, on est ou marxiste ou phénoménologue. C'est l'un ou l'autre. Et on passe de l'un à l'autre assez facilement. C'est très curieux de voir ça. Parce que justement, on n'a pas saisi l'être. Et donc, on ne saisit plus la possibilité vraiment de quelque chose qui est extérieur à nous, indépendant de nous, sans qu'on soit dépendant de lui. On ne saisit que ces deux effets et on ne saisit plus le principe. On reste dans une espèce de vision descriptive de ce qui est manifesté à nous et non pas d'analyse pour saisir le principe. On reste dans la description et on ne veut pas quitter la description. Je peux décrire deux extrêmes, l'aspect sujet et l'aspect formel. Causalité matérielle qui permet tout décrire. Causalité formelle, cause exemplaire, qui me permet de tout décrire. Ces deux causalités sont ultimes, toutes les deux, et s'opposent quant à leur effet, mais proviennent d'une confusion analogue. Il n'y a plus de principe propre de l'être. Et le premier principe propre de l'être, qui est la substance, est saisi dans son effet. Dans son effet extérieur, dans son effet immanent, intérieur. Et des deux côtés, il y a ce manque de l'induction, de la saisie du principe propre. Donc, vous voyez combien aujourd'hui, cette induction de la substance est importante. Si vous ne faites pas cette induction de la substance, vous resterez dans la description matérialiste ou dans la description phénoménologique. Égal de gauche, égal de droite. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Et c'est vraiment le seul moyen de pouvoir en sortir, c'est de regarder ces deux extrêmes qu'on peut manifester, qui sont manifestes, qu'on peut très bien manifester, qu'on peut décrire d'une façon très, très astucieuse, très intelligente, montrer ce qui ressort de ces deux confusions, et donner cela toujours par mode de manifestation, c'est plus facile à comprendre. Il n'y a plus d'induction. Il n'y a plus de possibilité de considérer quelque chose qui soit un principe propre. Donc, il n'y a plus de cause. Donc, vous voyez que la saisie de la substance est vraiment pour nous la seule manière d'entrer en métaphysique. Il n'y en a pas deux. Il s'agit de la substance. Autrement, vous resterez dans le marxisme ou dans la féminologie. Et c'est les deux choses qui apparaissent aujourd'hui. Le marxisme, la féminologie. Platon et Marx.